Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, icimaintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité, en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici et maintenant que vous écoutez, vous regardez aussi via internet ici et maintenant.info. Le magazine Santé et Spiritualité tous les jours pour parler de l'homme dans la vision holistique qu'on peut en avoir. Et pour ce faire, nous accueillons Bénédicte et Philippe ce soir. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Laurent.
Salut Laurent.
Alors, ça fait ce qu'on disait en antenne, un petit moment qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, Bénédicte, un peu plus récemment peut-être qu'avec Philippe. Alors, je vais vous demander de vous le présenter, tout simplement. L'occasion de présenter la méthode Corps Miroir aussi, et puis du parcours un petit peu de ce que vous avez pu vivre, expérimenter, pour expliquer aux auditeurs finalement ce que... Le témoignage, on va dire ça comme ça, et de ce que vous proposez.
Ok. Donc je suis Philippe et je suis français, j'habite en Allemagne et je fonctionne comme guérisseur. Et donc j'enseigne des techniques de guérison que j'ai appris à travers des séminaires auxquels j'ai participé avec Martin Brofman, un Américain qui s'est guéri lui-même d'une tumeur cancéreuse. Et les idées avec lesquelles on fonctionne sont très simples et reflètent en fait ce que tous les êtres évolués nous disent depuis des milliers d'années, que nous sommes chacun des créateurs. Et donc moi, au moment où je l'ai rencontré en 1990, j'étais myope, astigmate et bien entendu je portais des lunettes puisque dans la réalité physique normale c'est la seule solution, mis à part aussi les lentilles de contact ou les opérations laser quand c'est possible qu'on trouve pour pallier donc au problème de vue. Et quelques temps avant donc j'avais découvert un livre, améliorer votre vue avec des exercices. Bon, j'avais retiré mes lunettes mais j'avais pas trop envie de faire ces exercices donc je voyais pas plus clair, mais en retirant les lunettes j'avais comme une impression de liberté. Et quelques temps après, donc, j'ai assisté à une conférence de Martin Brofman où toutes les idées qu'il émettait me parlaient totalement et me paraissaient très claires. Et l'idée de base, c'est que chacun d'entre nous, on est un créateur. Donc on crée ce qui se passe dans notre corps physique et dans notre vie. Et à travers les outils pour travailler sur la conscience, donc, j'ai pu me libérer de ces symptômes de vue et à nouveau voir parfaitement clair sans lunettes. Et ensuite, j'ai fait une formation avec Martin Brofman et j'ai commencé à enseigner depuis 1991 donc ces séminaires un peu partout dans le monde. Voilà, ça c'est pour mon chemin en raccourci.
Une belle synthèse en tout cas, Philippe.
Merci.
Bénédicte Déhou, alors comment tu as rejoint l'aventure, je pourrais dire?
Ouais. Donc j'ai rejoint l'aventure, j'ai rencontré la méthode Corps Miroir en 1993. J'ai reçu une guérison d'un ami qui venait de découvrir ça. Et puis j'ai tout de suite relâché certains symptômes qui étaient bien embêtants pour moi. C'était des symptômes au niveau de la peau. J'avais vraiment des verrues partout. Et j'ai ressenti tellement d'amour pendant cette guérison et ça a été tellement efficace que j'ai tout de suite voulu voir ce qui se passait par là, d'autant que ce que j'en ai à la fois compris sur le moment et ce que j'ai ressenti, ça me parlait. J'avais l'impression que par là, j'avais vraiment quelque chose à découvrir. Donc j'ai tout de suite fait un premier stage de week-end, puis un premier stage intensif dès que ça se présentait avec Martin Brofman, dont Philippe parlait il y a 2 minutes. Quelqu'un de super, donc qui a su effectivement faire vraiment une synthèse de la psychologie occidentale et des philosophies orientales, et son approche et son point de vue sur la guérison m'a tout de suite vraiment vraiment emballée. Et j'avais 23 ans, j'étais vraiment une gamine, mais j'ai trouvé un sens à ma vie profondément à ce moment-là, et un peu comme une famille aussi, avec des gens autour de moi qui parlaient de choses concernant notamment la spiritualité, mais aussi l'amour, aussi le fait de vouloir créer un monde qui soit un monde chouette et beau et en harmonie. Et donc, tout de suite, je me suis mise à donner des guérisons, donc à recevoir à la maison. Et puis aussi, très vite, tout de suite, je me suis mise à organiser des séminaires pour une instructrice à l'époque. Et j'ai commencé donc presque à me construire là-dedans, parce que j'avais fait assez peu d'études, un bac, maths philo, et puis 2 ans en fac. Et je ne trouvais pas donc de quoi, quelque chose qui réponde vraiment à mes attentes. Et là, oui. Donc, en fait, je me suis construite quelque part aussi à travers, je dirais, cette logique et ce système que propose Martin Brofman à travers les méthodes corps-miroir. Et vraiment, pour moi, c'est un chemin de vie qui est super intéressant. Et on perçoit la guérison, on n'aime pas, bon, comme un but en soi, ok, mais aussi comme un chemin d'évolution. Et c'est vrai que je serais tellement heureuse que tout le monde participe à ça et se mette dans cette mouvance, quoi. Voilà.
Alors, tu as mentionné, Bénédicte, que tu as reçu la guérison. Tu as commencé par ces termes.
Ouais.
J'aimerais savoir, justement, au vu de la définition qu'a Martin Brofman de ce qu'est la maladie, qu'est-ce que ça veut dire que de recevoir la guérison? Et parce que là, pour le coup, ce serait peut-être antagoniste avec ce que disait Philippe sur le fait qu'on est co-créateur. Alors.
Ok. D'accord. C'est très simple. J'ai reçu une guérison parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis assise sur une chaise, je n'ai plus rien fait, et ce copain m'avait dit, si tu veux, je te donne une guérison. Donc je me suis juste assise, je me suis ouverte et j'ai reçu, sans rien faire d'autre. Et de ce point de vue-là, j'ai reçu quelque chose. D'un autre point de vue, on a effectivement co-créé tous les deux cette guérison, où lui, il s'est juste mis d'accord pour que, à ce moment-là, et dans ce moment-là de sa vie aussi, il était capable de créer une guérison, qu'il pouvait faire ça pour moi. Et moi, je me suis mis juste d'accord aussi, on s'est alignés tous les deux avec le fait que pour moi, c'était possible de guérir ça dans l'instant. Et
T'avais cette
voilà.
foi.
C'était pas une foi, c'était juste une ouverture.
Une ouverture.
Non, ouais, juste une ouverture.
Mais je pense qu'avant de parler de co-création, c'est important qu'on parle de création. Après, on pourra prendre la guérison comme un exemple de co-création, et cet exemple de co-création, on peut ensuite l'étendre à tous les domaines de notre vie. Si on se regarde soi-même comme créateur, je suis le seul créateur de toute mon expérience, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est une conscience à l'intérieur du corps physique. On expérimente des choses à travers un filtre perceptuel. Chacun d'entre nous, quand on regarde une personne ou une expérience, on a une certaine perception des choses. Mais peut-être cette perception, elle est totalement faussée parce que nos sens physiques et nos sens logiques peuvent être trompés. Hein, par exemple, si quelqu'un prend un stylo dur et l'agite comme ça entre ses doigts, ça peut paraître comme du caoutchouc. Mais en fait, à l'intérieur de nous, on sait que c'est pas comme ça. Quand on regarde toutes nos expériences du monde physique de cette manière, c'est important de savoir à partir de quel niveau de conscience on est en train de regarder l'expérience. C'est un peu comme si tu regardes un écran de télévision, et si l'écran de télévision, il y a des ondes parasites, tu vois pas vraiment l'image qu'il y a sur l'écran. Eh bien, on peut conceptualiser ce filtre de la même manière qui est autour de chacun d'entre nous. Cette bulle, ce filtre est coloré par nos désirs, nos croyances, nos émotions. Si le filtre n'est pas clair, alors à partir de là, on a une vision distordue du monde extérieur. Par exemple, si quelqu'un est hypnotisé et qu'on le touche avec un stylo et qu'on lui dit qu'il est brûlé avec une cigarette, eh bien, la personne va faire l'expérience de ça comme une brûlure. Et donc, elle va croire en cette réalité. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on sait alors? La seule chose qui peut être une vérité absolue, c'est ce qu'on appelle le je suis. C'est-à-dire, je suis un point de conscience en train de faire une expérience. Donc, on peut commencer avec ça, je suis créateur. Et. On fait l'expérience d'être un simple point de conscience, okay? Et à partir de là, quand j'ai entendu ça pour moi-même, si on est créateur, plutôt que de définir si on parle d'un symptôme physique ou de quelque chose qui marche pas dans notre vie, comme cette personne est responsable ou j'ai ce symptôme parce que j'ai eu un accident ou c'est l'autre personne qui est responsable, si je prends mon expérience en termes de symptômes de la vision, par exemple, les gens, quand ils atteignent un certain âge, il y a un certain programme dans la société qui dit à partir d'un certain âge, c'est normal d'avoir des problèmes d'yeux, vous avez la vue fatiguée, vous devenez presbyte. Si on décrit ça du point de vue qu'on l'a créé soi-même, le corps parle un langage très simple. Il dit à la personne, voilà ce que tu es en train de te faire avec la manière d'être que tu as développée. Et donc ça a plus de sens de dire, je m'empêche moi-même de voir clair, je m'empêche de voir quelque chose. Et quand on accepte de voir les choses comme ça, on prend la responsabilité pour sa propre expérience et là on peut changer quelque chose. On peut dire qu'on est dans le siège du conducteur au niveau de son esprit, sinon on se voit comme une victime de son environnement et on va chercher la solution à l'extérieur. Dans cette philosophie, on regarde la cause comme étant toujours à l'intérieur dans la conscience et les effets sont produits à l'extérieur. Et par la suite, donc en entendant au départ dans les séminaires parler Martin Brofman de ses expériences, il y a une chose aussi qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est les rêves. Et peut-être tu connais déjà par rapport à ce qu'on appelle les rêves lucides. Et par exemple, il y a une tribu qui s'appelle les Senoï, où quand ils rêvent lucidement, s'ils rêvent qu'ils insultent une personne de la tribu dans le rêve, le lendemain matin, donc ils vont faire un cadeau à cette personne qu'ils ont insultée dans le rêve. Et les ethnologues ont remarqué, en observant cette tribu, qu'en fait, il n'y a aucune violence, aucun crime, aucune maladie mentale dans ces tribus et aucun désir de prendre le pouvoir sur d'autres tribus autour. Et ça peut nous faire réfléchir quand on voit ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, okay? Et de voir comment on peut se relationner d'une autre manière et en se voyant comme créateur et co-créateur et trouver une autre manière de communiquer pour résoudre les tensions. Okay? Et donc, quand tu rêves lucidement, tu es conscient dans le rêve que tu rêves. Et donc, tu peux diriger ton rêve. Par exemple, si tu as un monstre dans le rêve, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, quand ils sont dans le rêve et qu'il y a quelque chose dont ils ont peur, ils s'enfuient. Et par exemple, ils essayent d'ouvrir une porte, ça ne marche pas. Et tout d'un coup, tu as l'impression de tomber dans un trou et tu te réveilles dans ton lit en se demandant ce qui s'est passé avec le cœur qui bat. Si tu rêves lucidement qu'il y a un monstre en face de toi, tu peux lui dire stop. Et tu es maintenant une petite souris, et c'est beaucoup moins inquiétant. Et tu peux imaginer que, par exemple, si tu t'endors à nouveau le soir et que tu recommences ton rêve lucide à l'endroit où tu l'as terminé la nuit d'avant, et que tu fais ça pendant quelque temps, quel est le rêve, quelle est la réalité? Alors une personne peut dire, oui, mais si je me pince, je sais que c'est la réalité physique, mais c'est la même chose, si tu te pinces dans le rêve, tu vas sentir aussi que tu as mal. Donc c'est au bout d'un certain moment, c'est difficile de déterminer quelle est la vraie réalité. Et si on regarde notre réalité physique de la même manière, on peut se voir comme un rêveur en train de rêver son rêve. Okay? Et dans la réalité physique, de la même manière, on peut changer donc la direction du rêve si elle ne prend pas donc la direction que l'on souhaite. Okay? Ça, c'est déjà une chose.
Il y a beaucoup de choses, oui.
Oui.
Est-ce que je te laisse continuer? Alors, Philippe, qu'est-ce qui t'a... Comment est-ce qu'on en arrive à... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Comment on arrive à rencontrer alors soit une conférence de Martin Brofman, sachant qu'il est américain, qu'il s'est guéri d'une tumeur, c'est déjà, je dirais, relativement fort de comprendre le processus qui lui a permis à guérir de sa tumeur, et puis de surcroît de la transmettre aux autres. Et puis, une fois qu'on l'a transmise, de dire, bah voilà, je peux non seulement vous aider à vous guérir vous-même. C'est ce que je comprends de ce que tu es en train de nous dire, puisque vous êtes créateur de votre vie, finalement, et de ce qui est en vous. Ok. Et puis en même temps, de permettre à certains qu'il forme, puisque c'est une méthode de guérison, à guérir les autres.
Oui. Mais, bon, il y a Martin qui raconte dans son expérience qu'à un moment donné, il s'est posé la question, voilà, je suis guérisseur, et bon, quand on est guérisseur, on a peut-être envie au départ de guérir le monde entier, mais on se dit, bon, si je passe 10 minutes par personne, il me faut au minimum 300 ans pour guérir le monde entier. Et donc, à ce moment-là, il s'est dit, bon, je vais aussi former d'autres personnes, parce que beaucoup de personnes se voyaient inférieures à lui, dans le sens de fonctionner comme guérisseur en disant, c'est Martin Brofman, et c'est grâce à lui. Et même si Martin leur enseignait, mais non, on est tous égaux, et vous êtes capables de faire la même chose, beaucoup de personnes avaient encore des difficultés sur leur chemin à s'imaginer égal à quelqu'un qui faisait ça. Et donc, il a décidé de former d'autres personnes, de manière à se mettre un peu en arrière, et à montrer que c'était pas lui, mais les outils qu'on utilisait, qui permettent donc de se guérir soi-même, ou de guérir les autres. Et ça, c'est une chose importante. Ça dépend pas de la personne, ok. Ça dépend donc de comment on utilise les outils. Et bon, en parlant de la création, encore, on va revenir tout à l'heure à la co-création. Par exemple, si je suis créateur, il y a un tabou sociétal qui est par rapport à dire, par exemple, c'est ok que je te dise que tu es Dieu, mais c'est pas ok que tu acceptes ça. Et c'est sûrement pas acceptable que tu me dises que je suis Dieu et que j'accepte ça. Donc il y a un tabou sociétal par rapport au mot Dieu, par exemple. Et donc on utilise plutôt un autre langage en disant c'est le rêveur qui rêve son rêve. Et là, ça passe beaucoup mieux. Et les gens sont capables de se relier à ça aussi en relation avec ce qu'on appelle les rêves lucides et de voir cette réalité physique éveillée comme un rêve qu'on est en train de construire. Et on est en même temps metteur en scène, ok, et on joue dans son rêve, et les autres sur l'écran devant nous, eh bien, c'est comme des projections de notre propre conscience qui jouent pour notre propre bénéfice dans le rêve. Ça, c'est un point de vue. Et un autre point de vue, à partir d'un autre niveau de la conscience, c'est si on est Dieu, est-ce que toutes les autres personnes qui sont devant nous, est-ce qu'elles n'ont pas également une conscience, et ce sont également des dieux, ok? Et donc, à partir de ce point de vue-là, chacun, on est des dieux en train de projeter notre rêve chacun autour de nous, et l'endroit où les différents rêves des différentes personnes se rencontrent, ça crée un hologramme à trois dimensions qu'on appelle la réalité physique éveillée. Et donc, tout ce qui se passe dans la réalité physique est le résultat de ce qui se passe dans les différents points de conscience qui sont impliqués dans une expérience. Et donc on peut regarder tout ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement immédiat, mais également tout ce qui se passe sur la planète par rapport à ce point de vue, et de voir ce que chacun amène dans une expérience. Okay. Et s'il y a des résistances, on peut changer quelque chose. Okay.
Alors, comment changer les choses dans ce cas-là?
Ok, donc on peut utiliser des outils comme on le fait dans la guérison pour changer la conscience, et quand on change à l'intérieur de la conscience, eh bien ensuite ça va avoir un effet sur le corps physique. Donc c'est important aussi, quand on se voit comme créateur et qu'on voit tous les autres comme créateurs, de voir qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à nous, de la même manière qu'il n'y a pas quelqu'un qui est inférieur à nous. Et si quelqu'un dit, oui, mais toi, par exemple, si tu vois les guérisons que tu fais, il peut se passer ce qu'on appelle des miracles vu de l'extérieur, mais peut-être, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, donc, et je peux dire, je suis un spécialiste dans le domaine de la guérison, mais une autre personne qui ne connaît rien à la guérison, elle a un autre métier dans lequel elle est spécialiste et auquel moi je ne connais rien. Et dans ce sens-là, on se complète chacun les autres, et dans ce sens-là non plus, il n'y a pas besoin de se voir supérieur à l'autre ou inférieur. C'est juste qu'on joue notre film et chacun a un rôle différent pendant un certain temps, et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Okay, on a tous besoin les uns des autres dans ce sens-là. Et il y a une chose intéressante, par exemple, si tu lis la Bible, ok, et où tu vois Jésus qui travaillait avec les mêmes dynamiques, ok, où il pensait, bon, d'après ce que je comprends, que la réalité physique que l'on crée, c'est à travers le résultat des désirs, des peurs, des croyances et des images que chacun met dans sa propre conscience. Et si tu regardes la méthode Silva, qui est cette méthode de reprogrammation positive au niveau du mental, ils ont un exercice qui s'appelle le miroir du mental. Et donc, si tu es dans une situation qui n'est pas heureuse, d'abord, c'est d'accepter telle qu'elle est, cette situation, et tu l'imagines sur ton écran mental dans un cadre bleu, et ensuite tu effaces ça et tu remplaces la situation que tu veux à la place, et tu focalises sur cette image et tu l'imagines dans un cadre blanc, et tu veux seulement voir cette image. Et les images que tu mets au niveau de ton esprit, ou les buts que tu énergétises, eh bien, ont une tendance à se manifester. Et donc c'est important si tu mets une image de peur, ok, c'est aussi une image très claire que tu peux avoir par rapport à une peur de quelque chose. Et cette image de peur aussi va avoir une tendance à se manifester. C'est pour ça que c'est important, la psychologie occidentale parle de l'inconscient et du subconscient. Et là, on se rend compte aussi de l'importance des mots qu'on utilise. Si on continue à parler, à utiliser le mot inconscient, ça veut dire qu'une personne pense qu'il y a des choses qui lui arrivent dans sa vie, elle ne sait pas pourquoi. Et dans la philosophie du corps miroir, on parle du niveau de l'esprit. Okay. Et l'esprit, c'est l'endroit où chacun d'entre nous, on crée donc notre réalité à travers les images, les buts qu'on énergétise. Et c'est important à ce niveau-là d'être dans son siège du conducteur. Parce que si tu es sur le siège du passager et que tu ne fais rien, la voiture, elle continue quand même. Okay. Et ta vie continue. Et à ce moment-là, tu continues à être victime de ton environnement. Donc c'est important de s'asseoir à nouveau sur le siège du conducteur et de rendre cet inconscient conscient. Ça veut dire de regarder la connexion directe entre les images que tu as énergétisées dans ton esprit et la réalité physique que tu crées autour de toi. Et là, tu vois que quand ça ne marche pas, eh bien, c'est de changer quelque chose à l'intérieur et de ne pas mettre la responsabilité sur les autres par rapport à ce qui se passe pour toi. Okay.
Oui, alors beaucoup de choses qui sont dites. Alors, j'espère, les auditeurs, vous prenez des notes pour poser les questions par la suite à Philippe. Alors, il y a un certain débit, Philippe. On va essayer de revenir un peu en arrière. Tu nous dis qu'on est donc soi-même créateur de sa vie, ok, et que finalement nos croyances créent notre réalité, et que nous sommes tous donc dans un système individuel de croyances qui s'entrecroisent les uns les autres.
Je dirais même nos perceptions créent notre réalité. Nos perceptions, c'est-à-dire la manière subjective dont on interprète toutes les informations qui viennent vers nous du monde extérieur et qui passent à travers cette bulle, ce filtre qui nous entoure. Okay. Et donc avec ce que tu choisis comme perception, tu vas créer une réalité pour toi dans ton corps et dans ta vie autour de toi.
D'accord. Donc tu nous dis que chaque chose qui nous arrive est due à la conscience. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une maladie dans ce cas-là, cette maladie, comment expliques-tu que quelqu'un d'extérieur, toi en tant que guérisseur, tu apportes la guérison? Est-ce que ça sous-entend que tu apportes un changement de conscience à la personne sur qui tu pratiques cette guérison?
Oui. Alors, juste pour terminer et pour venir à cette explication par rapport à la guérison et la co-création entre le guérisseur et le guéri, si je reviens à nouveau à ce guérisseur qui marchait sur la planète il y a environ 2000 ans, par exemple, il y a cette histoire dans la Bible avec Jésus et l'officier romain, et l'officier romain qui lui dit « si tu prononces ces mots, cette petite fille sera guérie ». Okay. Et Jésus lui dit, la réponse est très intéressante, « rentre à la maison, ta foi t'a guérie ». Okay. Et donc, il n'a rien fait, Jésus. Mais c'est comme si le rêve de l'officier romain, s'il est totalement ouvert, à partir de là, la manifestation va se faire à travers la co-création. Okay. Et donc, dans le rôle entre le guérisseur et le guéri, il y a cette interaction où le guérisseur va proposer ses services à la personne, okay, en disant « je peux faire quelque chose pour toi », et si la personne est OK, elle va dire « j'accepte ». Le guérisseur, il est en même temps yin et ensuite il va et yang. Okay, il est yang quand il propose ses services. Okay, et ensuite, il attend que la personne donc prononce les phrases « je veux être guéri ». Ça veut dire que la personne qui a le symptôme physique ou un déséquilibre dans sa vie ou dans sa conscience accepte qu'une autre personne intervienne dans sa conscience de manière à remettre le système énergétique en équilibre et ensuite qu'il y ait une manifestation physique. Et le guéri va, créer le guérisseur, dans le sens où le guéri doit s'attendre à avoir le meilleur guérisseur que le monde ait jamais connu. Parce que si le guéri crée le guérisseur, ça ne fait pas de sens pour la personne qui reçoit la guérison de se dire « Oh, peut-être cette personne, c'est un amateur et il va tout me déglinguer à l'intérieur. » Ça referme déjà la porte de la guérison. Et ensuite, ça c'est la première chose importante. Et la deuxième chose, c'est le guérisseur... donc attend que la personne s'ouvre totalement, c'est-à-dire la personne qui reçoit la guérison doit se demander est-ce qu'elle s'attend vraiment à être guérie maintenant. Par exemple, si une personne vient me voir pour une guérison, je veux la voir une seule fois. Parce que si je dis à la personne il faut venir, il faut faire 10 sessions par exemple, eh bien dans mes perceptions de guérisseur, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit guérie tout de suite. Okay, et ça met aussi une limite à la guérison. Donc c'est que le guérisseur et les guéris ouvrent chacun à leur conscience à la possibilité de la guérison immédiate. Et ensuite, on voit, une fois la manifestation totale dans la réalité physique, est-ce que la guérison est totale ou est-ce que la guérison est partielle? Si elle est partielle, je peux accepter de revoir une autre fois la personne si elle a changé quelque chose dans sa vie et dans la manière d'être qui a créé le symptôme. On travaille avec l'idée que chaque symptôme est relié à une manière d'être qui ne fonctionne pas pour la personne. Donc il y a une manière d'être de cancéreux ou de myope ou de personne avec le sida ou de personne qui a des difficultés avec l'argent ou dans les relations. Et donc dans la guérison, c'est plus quelque chose, la guérison de métaphysique que de mental. Okay, on va plonger dans la conscience, on va rêver, on vole dans le rêve de la personne. Okay, et on regarde ça à partir de notre propre bulle. Et donc on voit des images, ou si on travaille avec les chakras, on regarde les couleurs, si elles sont en harmonie par rapport au langage des couleurs qu'on utilise. Et donc on remet ça en équilibre. Et ensuite on va dire à la personne ce qu'on a vu, ce qu'on a fait et ce que ça signifie pour nous. Ça veut dire que la personne va recevoir un retour d'information, un feedback par rapport à ce qu'elle avait dans la conscience avant la guérison. Et quand elle retourne dans sa vie de tous les jours, alors elle va devoir faire attention de ne pas répéter le même scénario, les mêmes pensées, les mêmes perceptions, de manière à ce qu'il y ait une manifestation totale de la guérison. Sinon, la personne recrée les mêmes tensions et le symptôme a une possibilité de revenir. Et donc cette interaction, quand elle est parfaite dans la guérison, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle, on peut appeler un miracle vu de l'extérieur, okay, où des tumeurs peuvent diminuer en 20 ou 30 minutes, dépendant de la durée de la guérison, ou des os se ressouder, ou, etc. Okay, ce qui paraît comme un miracle vu de l'extérieur, mais qui est en fait seulement la manière dont la conscience fonctionne.
Alors comment parce que là, tu nous fais un... Alors tu nous décris le truc, ok. Est-ce que Martin Brofman avait l'occasion d'avoir cette conception, peut-être qu'elle a évolué au fil du temps, de ce qu'est finalement le rôle qu'il a lui en tant qu'être humain et de l'interaction qu'il pouvait avoir avec tout à chacun en tant qu'individualité divine?
Ça, il faudrait poser la question à Martin directement. D'accord. Je peux te répondre seulement par rapport à ma propre expérience. Ok, dans ma propre expérience... quand j'étais jeune, j'ai eu cette personne dans ma famille, le neveu de ma grand-mère. Bon, j'avais déjà parlé de lui lors de mon émission l'année dernière, qui était radiesthésiste et qui travaillait donc avec un pendule. Et il analysait des buvards mouillés de la salive des gens et il trouvait donc les organes où il y avait des symptômes et il prescrivait des médicaments homéopathiques. Et ça m'impressionnait parce que moi aussi, j'avais des symptômes quand j'étais jeune et en prenant ces médicaments homéopathiques, et ça tombait toujours juste. Et quand je suis devenu un peu plus âgé, vers les 18-20 ans, j'ai eu des conversations très longues avec lui. Et c'est lui qui m'a fait connaître des livres comme La vie des maîtres ou Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Et d'ailleurs, Yogananda parle aussi de ce rôle qu'on a comme créateur, de co-création, etc. Et pour moi, ça coulait de source. Mais je n'avais pas vraiment d'expérience directe. J'avais fait quelques expériences d'énergie avec le neveu de ma grand-mère. Donc là. Et ensuite, il est décédé. Et j'avais seulement des lectures, donc pas d'expérience directe. Et quand j'ai rencontré Martin, quand j'ai entendu la philosophie et les idées dont il parlait, c'était comme si je retournais 20 ans en arrière. Et que j'avais cette porte déjà de guérison qui était ouverte et que je n'ai pas prise parce que j'étais à ce moment-là dans une autre réalité. Et là, j'ai dit, c'est le moment de sauter là parce que c'est ça qui me parle totalement. Okay. Et quand j'ai appliqué ça sur moi-même, j'ai vu comment je créais ma réalité. Et quand il y avait des résistances dans mon corps, des symptômes ou dans ma vie, j'étais de plus en plus capable de libérer ça. Et si on n'y arrive pas soi-même, eh bien, on demande l'aide d'un autre guérisseur qui va, quelquefois, donc, on est pris dans notre film émotionnel. Et donc, le guérisseur a un regard objectif sur ce qui se passe dans notre conscience. Okay? Et il est là pour nous aider à accomplir notre rêve. Donc, il se glisse dans notre conscience pour nous amener vers le rêve qu'on a en fait défini au départ de la guérison en disant je veux guérir ça et ça et ça. Okay? Et donc le guérisseur se met à la disposition pour amener ça.
Ouais. Et ce que je sais de Martin, parce qu'il le dit souvent, c'est que quand il a commencé à donner la guérison, il y a tellement de gens qui lui ont demandé de recevoir une guérison de lui, qu'au bout d'un moment, donc, il a eu cette évidence qu'il fallait qu'il apprenne à ces gens à pouvoir s'auto-guérir ou se guérir, etc. Et parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Donc il a monté ses stages, il a créé cette méthode, ce système, etc. Et un système et une méthode qui pouvaient être transmises à tous. Et c'est parti de là, en fait, cette histoire. Donc je pense que son rôle, enfin en tout cas moi, comment je le perçois, son rôle, ça a été vraiment d'amener ça, déjà, et d'amener cette méthode, cette synthèse, ces techniques, cette boîte à outils, hein, d'outils de la conscience, pour que tout à chacun, même les enfants, on puisse s'en servir pour nous-mêmes, pour les autres, et voilà quoi.
On peut dire, entre guillemets, le plus difficile pour la personne qui reçoit la guérison, après la guérison, c'est comme sauter dans un nouveau film. On ouvre les yeux et on demande, quand la personne ouvre les yeux, on va lui demander comment tu te sens, pareil ou différent. Okay. Et la personne doit regarder qu'est-ce qui est différent et mieux dans son expérience après la guérison, dans sa conscience et aussi au niveau physique. Et après, on lui fait le feedback et la personne a deux possibilités de réponse. Oui, ça me parle. Ça veut dire que quand on lui dit, voilà, j'ai vu ça et voilà ce que ça signifie, la personne est capable de se connecter à donc une expérience qu'elle a eue dans sa conscience ou dans sa vie. Ou la personne peut dire, non, merci, mais je n'ai pas l'expérience de ça. Ok, peut-être quand l'énergie va descendre plus tard dans sa conscience, elle va dire, ah oui, maintenant je comprends pourquoi le guérisseur m'a dit ça. Mais si le guérisseur a des bonnes perceptions, le feedback il est toujours pertinent. Mais ensuite, donc, la personne doit repartir dans sa vie en étant curieuse par rapport à tout, c'est-à-dire ne pas se définir en termes de l'ancien être qui était là avant la guérison. Si la personne ne se connaît pas, parce qu'à travers la guérison tu changes de vibration, peut-être tu as envie de manger des choses que tu détestais avant, peut-être tu as envie de t'habiller différemment, et puisque tu changes de vibration, eh bien tu vas attirer des personnes qui correspondent à cette nouvelle vibration. Donc sauter dans un nouveau film, mais si quelqu'un par exemple a un symptôme physique les gens qui le connaissent maintiennent la perception encore qu'il est dans l'ancien film, et ça devient difficile pour la personne de rester, on va dire, droit dans ses bottes dans ce nouveau film, et donc elle a besoin de gens autour d'elle qui l'encouragent dans la perception de ce nouveau film et qui l'accompagnent dans cette nouvelle expérience. Et donc quelquefois si on a un symptôme qui peut menacer sa vie, c'est bien d'être avec des personnes qui sont là pour nous soutenir et nous dire voilà, c'est bien ce que tu fais, etc., plutôt que des personnes qui disent mais non, ça marche pas, pourquoi tu fais ça. Et on peut être amené à mettre à distance ces personnes qui nous voient toujours dans l'ancien film, non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce qu'on a besoin vraiment d'être soutenu dans notre démarche. Okay, donc ça c'est la partie qui est dans les mains du guéri, okay, mais il a tous les outils pour le faire.
Et on va aborder la première page promotionnelle. Aujourd'hui avec nous Philippe et Bénédicte pour nous parler de la fondation Bronfman. D'ailleurs, un site internet, un numéro de téléphone pour en savoir plus, différents événements à vous annoncer. Le premier, donc, le site internet. Alors prenez de quoi noter. www.healer.ch, healer qui veut dire guérisseur en anglais, H-E-A-L-E-R, healer.ch. Vous pouvez aussi contacter Bénédicte pour en savoir plus à ce numéro de téléphone, le 01 47 70 66 87. Je répète, 01 47 70 66 87. L'email de Bénédicte, Bénergie, alors c'est très simple, Benergie, @hotmail.com. Benergie@hotmail.com. Pour ce qui est des événements, alors à Paris, une conférence qui aura lieu, la thématique « Le corps reflète la conscience », ce dont nous parlons dans une certaine mesure aujourd'hui. Cette conférence aura lieu le vendredi 15 octobre à 20h. La question qui se pose, c'est où ?
Le lieu sera communiqué, donc on m'appelle, on me contacte et moi je donne toutes les infos très très vite dans le courant de la semaine.
D'accord.
Voilà, merci Laurent.
Je t'en prie, Bénédicte. Donc, cette conférence, je le rappelle, aura lieu le vendredi 15 octobre à 20h. Un stage vous est organisé, vous est proposé. Méthode corps miroir, c'est ce dont nous parlons bien entendu aujourd'hui. Dans 3 semaines exactement, le week-end du 16-17 octobre, avec Philippe pour animer ce stage. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre ? Je pense avoir tout donné.
Ouais, c'est super.
Tu es le meilleur animateur radio de l'univers.
Voilà, faut penser que je le suis, en fait. C'est ça le truc, si je suis ce que tu es en train de dire.
Il y a de ça, ouais, au niveau des perceptions, tout à fait.
C'est ça, parce que c'est ce dont on parle, hein, c'est cette co-création à chaque instant. Okay, c'est d'en être conscient à chaque instant dans sa vie. Et en fait, ta perception des personnes autour de toi, ça crée une force. Mais leur perception autour de toi, ça crée aussi une autre force. Et donc, si toi, tu as une image A de toi-même et les autres une image B, c'est des forces qui se contrarient. Okay? Et donc, tu auras plus de mal à arriver à la réalisation de ton but. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être avec des personnes qui ont la même image. Et donc, cette co-création, ça se reflète dans tous les événements de notre vie, dans un couple, okay, dans une société, etc., où c'est important qu'il y ait un alignement d'intention. Okay. Et de voir est-ce qu'il y a une harmonie ou alors est-ce qu'il y a une résistance au flux de l'énergie. Et s'il y a une résistance, on doit voir d'abord si ça vient de nous et donc de faire quelque chose pour enlever la résistance. Si ça vient de quelqu'un d'autre, il faut faire aussi quelque chose. Par exemple, tu as un but dans ta vie. Okay. Et au lieu de te retrouver au but que tu as défini, tu te retrouves à un autre endroit. Et donc, d'abord, tu dois regarder est-ce que cet endroit est meilleur que celui que tu as défini au départ. Alors, si c'est meilleur, tu peux voir ça comme le signe de ton intelligence supérieure, qui savait que cet endroit serait mieux pour toi. Maintenant, si c'est moins bien, alors tu dois regarder les consciences qui sont impliquées avec toi dans cette expérience. Par exemple, A, B et C. Okay. Maintenant, il y a un autre moment dans ta vie où tu définis un but. À nouveau, tu as un autre endroit différent de celui que tu as défini. Et là, à nouveau, tu peux regarder si c'est meilleur. Si c'est moins bien, à nouveau, tu regardes les consciences. Par exemple, A, B et D. Okay. Et à un autre moment, tu définis le but, à nouveau, c'est différent. Et là, à nouveau, tu regardes quelles sont les consciences. Il y a B, E et F. Quel est le dénominateur commun ? C'est B. Et donc, ça veut dire que cette conscience avait plus d'intérêt à te voir à l'endroit où tu es arrivé, qui est différent de celui que tu as défini. Et donc, tu as besoin de clarifier quelque chose dans ta conscience et aussi avec cette personne. Okay. De voir que tu... C'est comme s'il y a des vents et des vagues d'énergie, okay, que tu mets en route avec ce que tu fais dans ta conscience. Et dès que tu as un but dans ta conscience, tu te diriges vers la manifestation de ce but. Mais en chemin vers ton but, tu as des forces extérieures qui se mettent en route pour t'amener vers ce but. Tu as l'impression que ce sont des forces extérieures, mais elles sont mises en route par ce que tu fais dans ta propre conscience. Et il peut y avoir des vents et des vagues d'énergie qui te poussent contrairement donc à ta direction définie. Et là, si tu ne fais pas attention, si tu marches inconsciemment dans ta vie, à ce moment-là, tu vas te retrouver à un endroit différent et qui peut-être avec beaucoup plus de résistance encore. Donc, c'est important d'être de plus en plus conscient de manière à ce que chacun puisse réaliser les buts et les rêves dont il a envie.
Alors quand tu me dis gentiment que je suis le meilleur animateur au monde, dans ce sens-là, est-ce à dire que je veux pas me leurrer et je veux pas que mon ego se glorifie de quelque chose qui ne soit pas non plus. Je prends les choses, je vais te dire comment je prends la chose. Ouais. On me fait des compliments. Je prends les compliments comme étant quelque chose qui pondère sporadiquement le fait que ce que je fais ou ce que je suis ici et maintenant est juste et que je suis donc à ma place. Donc je ne les prends pas comme étant une finalité en soi. Oh, c'est super Laurent, super animateur. Non, on va dire que je les prends comme un encouragement à être toujours dans cette forme de justesse, peut-être.
Ouais.
Il y a ça, mais en même temps, si je ramène ça à la guérison en elle-même et cette co-création entre le guérisseur et le guéri, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le guéri crée le guérisseur. Et le guérisseur, il doit sauter dans ce rôle. Okay, il n'a pas à se poser la question, est-ce que je vais y arriver, etc. Parce que là, il ne va pas co-créer la meilleure guérison possible avec le guéri. Le guéri projette un rêve. Voilà le meilleur guérisseur que le monde ait jamais connu. Ça ne fait pas de sens pour le guérisseur de dire, je ne vais pas y arriver. Okay, je ne suis pas le meilleur. Et donc là, par exemple, en termes de dire, tu es le meilleur animateur, c'est juste, tu mets ce manteau, et tu joues le rôle du meilleur animateur pendant un certain temps et tu te vois comment tu te sens avec ça. Et ça veut dire que pendant la guérison, quand on parle de guérison, le guérisseur ne doit pas se laisser impressionner par son ego en disant je suis le meilleur, etc., je connais tout, mais jouer ce rôle et s'attendre à ce que la guérison se passe immédiatement. Après la guérison, tu peux te laisser impressionner par les résultats que tu as eus et tu peux regarder aussi qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux la prochaine fois. Okay, mais dans tous les cas, c'est important de se mettre dans le moule de meilleur guérisseur. Et toi, tu peux te remettre aussi dans le moule. Et quand on parle de co-création comme ça, c'est toujours de faire en sorte que tes propres besoins soient satisfaits, mais que les besoins des autres aussi soient satisfaits. Donc, de ne pas contrarier les rêves des autres. Okay, par exemple, si tu étais acteur de cinéma, okay, et tu as le premier rôle dans un film, et moi je suis aussi acteur, et je me dis, moi je voudrais bien ce rôle-là, et je me dis, ce serait bien s'il se cassait la jambe, comme ça j'aurais le rôle. Ça, c'est pas la pensée à avoir. En fait, pour que les besoins de chacun soient satisfaits, je pourrais penser, ce serait bien si Laurent avait un rôle encore meilleur dans un film encore meilleur, et moi, comme ça, je pourrais avoir le rôle. Comme ça, tes besoins sont satisfaits et les miens aussi. Okay, et c'est de cette manière qu'on peut arriver à co-créer aussi une vie plus harmonieuse et un monde plus harmonieux pour chacun d'entre nous, en voyant que les besoins de tout le monde sont satisfaits.
Alors, on va prendre un autre exemple. tu parlais de changer justement ce rêve mental, de prendre un écran bleu et puis de tout refaire. Admettons que le rêve que je vis ou je me suis construit ne me satisfait pas, ne me convient pas. Hop, écran bleu, on recommence à zéro. Et puis, tu mentionnais aussi que tu parlais d'inconscient et de subconscient tel que la psychologie l'avait traduit à l'heure actuelle, mais tu préfères parler d'esprit et comment notre esprit construit ces images. Dans ce sens-là, je suis aussi, dans une certaine mesure, on va dire, au jour d'aujourd'hui, la somme de mon éducation parentale, de ce que mes parents m'ont transmis comme valeur, puisqu'ils étaient les premiers, on va dire, à ma naissance. Et puis par la suite, ça peut être le système de l'éducation, la famille au sens large. Après, c'est la société, c'est les collègues, le travail, bref. Et tout ça, d'une certaine manière, m'a conditionné dans une certaine mesure. Imaginons que j'ai une colère qui est due à une frustration de mon enfance et que j'ai encore aujourd'hui cette frustration qui m'accompagne. Quand bien même je crée ou je dessine sur mon beau tableau bleu le rêve qui me permette de rentrer en confrontation avec cette énergie qui me suit depuis mon enfance, dans quelle mesure, tu vois ce que je veux dire ?
On travaille avec l'idée que tout peut être guéri tout de suite. Et donc, si tu parles de ton enfance ou si on part dans une réalité plus loin, de vie antérieure, etc., si on dit tout peut être guéri maintenant. Quoi que ce soit qu'il peut y avoir dans la conscience ou dans le comportement, à partir de le moment où la personne veut changer le film. Okay, donc, c'est pour ça que c'est important, quand le guérisseur propose ses services pour la guérison, que la personne dit « je veux être guéri et je veux être guéri maintenant ». Okay, ça veut dire qu'elle ouvre toutes ses portes pour que le guérisseur plonge dans sa conscience et refasse donc une harmonie au niveau énergétique. Et ensuite, la guérison, elle se passe au niveau le plus profond. C'est pas seulement donc la guérison au niveau physique, c'est au niveau émotionnel, mental, spirituel. Okay, et là, la personne donc va pouvoir changer la manière d'être. C'est comme si, après une guérison, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ouvres les yeux, tu es un nouveau-né, tu ne te connais plus. Okay, quelquefois, il y a des changements très forts et quelquefois, la personne elle doit attendre un peu avant de percevoir le monde avec des nouveaux yeux. Mais c'est une chose importante de... Si on ne veut pas transporter une chose du passé qui est désagréable dans le présent et la projeter dans le futur, c'est de faire attention donc aux mots qu'on utilise. Parce que souvent, les personnes, quand on les écoute parler, elles se définissent en termes de qui elles sont vis-à-vis, en relation avec leurs expériences passées et pas comment elles sont dans l'ici et maintenant. comme la radio d'ailleurs, la personne dit je suis comme ça, ok, ou je ne veux pas ça. Mais en fait, c'est dire je n'étais pas comme ça. Maintenant, je dois, j'étais comme ça, pardon. Et maintenant, je dois voir comment je suis actuellement. Qu'est-ce qui est vrai pour moi dans le moment présent? Parce que c'est le seul moment où on vit. Le passé n'existe plus et le futur, il reste à définir avec ce que tu mets dans ta conscience dans le moment présent.
Il y en a même qui viennent en guérison, par exemple, ou en parlant de symptômes qui sont génétiques. Donc, tu vois, ils ont eu ça avant, ou pour des guérisons au niveau du karma, alors dans les vies antérieures, et donc dans cette vie-là, etc. Effectivement, tout peut être guéri à quelque niveau de conscience que ce soit. Et par ailleurs, la guérison, elle on n'est pas obligé de comprendre et de savoir d'où ça vient. Juste, on constate dans l'instant présent que ça fonctionne pas super bien, qu'on n'est pas content avec ça ou qu'il y a un symptôme ou quoi. Et de là, on prend la décision simplement de partant de ce constat, de dire ben, ça, j'en veux plus et maintenant, je veux créer autre chose dans ma vie. Voilà.
Bon, tout à l'heure, je parlais par rapport à quand une personne définit un but et qu'elle se retrouve ailleurs, elle doit regarder quelles sont les consciences impliquées, si ce but n'est pas meilleur que ce qu'elle a défini. Et donc, on peut regarder dans la conscience d'abord, peut-être on s'est compromis à cause d'une colère qu'on avait là. On peut regarder ça au niveau psychologique. Mais on peut regarder aussi en termes de connexion d'énergie. Ça veut dire que la personne... il y a quelque chose qui doit se passer différemment. Parce que si chacun, on est des êtres de capacité infinie, si toi tu as une image A et moi j'ai une image B, okay, les vents et les vagues d'énergie des deux rêves ont tendance à se contrarier et de ne nous amener ni l'un ni l'autre à la réalisation de nos buts et de nos rêves. Et donc, il y a une première solution, c'est qu'on peut négocier et de voir si chacun d'entre nous, on peut définir un autre but qui satisfait les besoins de tous les deux. Okay, et ça se passe dans une société, dans un couple, dans la relation, quelle qu'elle soit. Okay. Maintenant, s'il n'y a aucune solution qui est possible, et que chacun tire dans des directions différentes, il va falloir déconnecter les énergies. Okay, et donc ça peut amener une séparation. Mais à nouveau, c'est pas par manque d'amour, c'est parce que chacun a des rêves différents qu'il a envie de vivre. Okay. Et on peut regarder ça un peu comme les arts martiaux. Il y a différents styles. Par exemple, si tu fais du karaté, c'est avec ton intention de blesser ton adversaire. Mais pas sciemment, mais juste en self-défense, en autodéfense. Maintenant, tu peux, si tu regardes le tai chi, c'est un peu plus comme une danse entre le yin et le yang, okay, où chacun donc complète l'autre. Mais tu peux aussi faire de l'aïkido, par exemple. Et là, dans l'aïkido, tu mélanges ta force avec la force de l'adversaire, mais en fait, tu ne le vois pas comme ton adversaire. Okay. Tu le vois plutôt comme un autre être, okay, où tu veux arriver donc, à une conclusion où les besoins de chacun soient satisfaits. Okay. Et donc, tu peux regarder quelle sorte de style tu veux définir dans ta vie. Et pour moi, c'est important... que je ne marche pas sur les pieds des autres, okay, que je n'envise pas leur espace, que je respecte l'espace des autres de la même manière que les autres respectent le mien. Okay. Et quand il n'y a pas moyen donc, de négocier par rapport à un même but, alors dans ce sens-là, c'est la séparation. Et tu peux regarder ça aussi dans une société. Quand une société ne marche pas comme on veut, c'est de regarder où est le défaut d'alignement dans la conscience d'une ou plusieurs personnes. Et là, à nouveau, donc il faut négocier de manière à trouver un autre chemin.
Comment vous faites en tant que guérisseur pour, dès le moment où vous avez la permission, de rentrer dans la conscience de celui qui souhaite être guéri? Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça sous-entend?
Ben, ça sous-entend, bon, on travaille avec l'énergie, okay, et la guérison, c'est un travail d'imagination, où on peut dire, t'imagines, ou tu voles dans le rêve de l'autre et t'imagines ce qui se passe dans sa conscience. Okay, et c'est... des fois, tu vois des choses et tu te dis non, c'est pas possible. Mais dans le feedback après, dans la communication, c'est important de tout dire, ok, par rapport à ce que tu as vu. Et tu vois que ça parle totalement à la personne, ok. Des fois, tu vois des images de guerre, etc. Et tu te dis mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et quand tu parles à la personne, elle dit oui, j'ai vécu une expérience comme ça. Et donc tu voles dans le rêve de l'autre et tu l'amènes à rentrer dans le rêve qu'il a défini au départ dans sa demande de guérison. Okay. Et ce travail énergétique, tu peux le faire avec différents outils. Donc on travaille avec ce qu'on appelle la lumière blanche, qui est la somme de toutes les couleurs. Ok, la lumière blanche, elle est connue au niveau métaphysique, au niveau spirituel, pour donner un sentiment de confiance, de sécurité. On travaille aussi donc avec les chakras, les centres d'énergie, qui sont une séquence logiquement ordonnée de 7. Ok, et si on regarde dans le monde extérieur, qu'est-ce qui représente une séquence logiquement ordonnée de 7 donc on peut prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc on peut mettre chaque couleur de l'arc-en-ciel sur chacun des chakras et ça représente le chakra dans son état d'harmonie. Si on imagine ou on voit une autre couleur dans un chakra, alors on va la changer. Ok, dans la conscience du guérisseur, on change ça et ça va changer dans la conscience de la personne. Et il y aura un langage des couleurs. On va dire à la personne après, j'ai vu telle couleur dans tel chakra, il voit ce que ça signifie. Et la personne donc voit comment ça lui parle. Et là, il y a un déclic dans la conscience. Okay. Et on peut travailler aussi avec ce qu'on appelle les formes pensées. Par exemple, une personne te décrit, j'ai très mal au côté, c'est comme si j'ai un couteau pointu qui est enfoncé dans le côté. Si la personne décrit ça comme un couteau pointu, il existe réellement. Et donc, le rôle du guérisseur, ça va être de rendre cette forme pensée, ce couteau aussi réel pour lui qu'il l'est pour la personne, et l'enlever en faisant les gestes physiques, et la personne va sentir que tu retires quelque chose. Et après, tu vas communiquer à la personne, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai retiré, et la personne va sentir ce changement aussi donc au niveau physique.
Donc en rapport à ces outils que vient de décrire Philippe, tout le monde l'avait compris, Philippe enseigne cette méthode, la méthode corps miroir, et tout le monde peut apprendre à utiliser ces outils, hein, ce dont vient de parler Philippe, très simplement, et donc rentrer dans la conscience, hein, de quelqu'un pour pouvoir donner une guérison, c'est à la portée de tout le monde, vraiment, et il suffit effectivement que la demande soit là, hein, que la personne veuille recevoir cette guérison, et qu'elle ne fasse donc plus rien, qu'elle soit juste tranquille, et donc ensuite utiliser ces outils qui sont simples. Les enfants peuvent aussi utiliser à leur manière, et de voir une fois que cette guérison a été donnée, hein, donc avec l'imagination, avec la visualisation et le ressenti, il y a cette partie qu'on apprend aussi donc durant les stages, c'est le feedback, le retour d'information. Et donc là, les participants apprennent à faire confiance dans leur perception en tant que guérisseur et même en tant qu'être humain avec les perceptions extrasensorielles, puisqu'ils vont exprimer ce qu'ils ont fait, hein, pendant cette guérison. Ils vont en parler à la personne qui a reçu cette guérison. Bien souvent, ils ne se connaissent pas du tout. Et ils vont pouvoir évaluer jusqu'à quel point leur perception était juste, puisqu'ils vont avoir cette communication après. Et là, ça devient vraiment intéressant en rapport justement aux perceptions et au fait de créer une nouvelle réalité ensemble, au-delà de cette réalité physique et mentale aussi dans laquelle on a l'habitude de s'identifier, entre guillemets.
Oui, et c'est important, bon, puisque chacun, on est des êtres de capacité infinie, le guéri ne doit pas accepter inconditionnellement le feedback du guérisseur, la communication, okay, parce que c'est un guérisseur, oui, qui lui dit ça. C'est juste le guérisseur donne son feedback, son information, et la personne, donc, elle a la seniorité, on peut dire, elle est maître dans sa conscience, elle peut toujours décider d'accepter ça ou de rejeter ça. Okay. Dans ce sens, la guérison, c'est pas de l'hypnotisme, c'est pas une manipulation, c'est une co-création avec le libre arbitre de la personne d'accepter ou de rejeter ça. Okay. Et c'est la même chose quand on fait des guérisons à distance, où il n'y a pas besoin qu'une personne soit présente physiquement pour lui donner une guérison. On peut faire une guérison à distance, quelle que soit la distance, quelques mètres ou quelques milliers de kilomètres. La personne va sentir cette énergie et elle a toujours la possibilité d'accepter ou de rejeter l'énergie. Si des personnes disent mais c'est pas, on peut pas faire une guérison à distance, on peut pas envoyer de l'amour et de l'énergie si la personne ne le sait pas. Est-ce qu'on demande à quelqu'un de prier pour lui? Non. Donc c'est la même chose, okay, sauf que au lieu que ce soit juste une pensée de prière qu'on envoie, c'est aussi de l'énergie et de l'amour. Okay. Et l'amour guérit. Parce qu'il n'y a pas de... Certaines personnes ont peur de la manipulation et de la prise du pouvoir du guérisseur, mais c'est pour ça que c'est important de travailler dans ce domaine de co-création et de libre arbitre.
Alors comment est-ce que vous percevez ceux qu'on appelle les barre-feux, qui, donc, ont l'occasion, alors, je parle des villages, on appelle aussi les rebouteux, mais...
Il y a les sorciers aussi,
oui,
qui
aussi.
Sont magiques, oui, bien sûr.
Alors, c'est que c'est... De voir qu'à l'heure actuelle, il y a par exemple des hôpitaux en France ou des cliniques qui font appel justement à ces gens qui ont des facultés d'arrêter ou de stopper à distance, parce qu'ils ne se déplacent même pas à l'heure actuelle, dans le cas de grands brûlés. Et là aussi, de constater que généralement, j'ai bien généralité, c'est de père en fils ou un membre de la famille qui a le... Alors, qu'on appelle un don, pour le coup. Mmh. Et vous nous dites donc que c'est à travers ces pratiques qu'a mis en avant Martin Brofman. On peut tout à chacun... Je baisse le micro, si tu veux.
Merci.
Je t'en prie, Philippe. On peut tout à chacun, être dans ce rôle d'être guérisseur pour soi, pour sa famille, ses amis, enfin bref. Donc... comment est-ce que tu as ou vous expliqué cette idée qu'il y ait des gens qui spontanément, sans qu'ils aient jamais rien appris, ont ce, entre guillemets, don, je mets entre guillemets. Hein.
Oui, pour moi tout fonctionne avec des croyances. Okay, si la personne croit qu'elle reçoit ça de sa grand-mère ou de son grand-père, etc., et que ses enfants vont recevoir la même chose, à partir de là, cette croyance, elle fonctionne. Ça nous montre qu'on est chacun des créateurs infinis et que nos croyances créent tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre vie. Et si la personne donc, a eu ce don de guérisseur de ses parents ou grands-parents, et qu'elle a la croyance que ça fonctionne et que je vais le transmettre de la même manière, eh bien, c'est ce qui se passe. Okay, dans la réalité physique, c'est le résultat de ce qui se passe dans la conscience. Bon, ça, c'est le point de vue que j'ai.
Et ben voilà, j'aime bien parler moi aussi. On est là pour finir. Ouais, il y a ça aussi, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont aussi entendu parler de ça depuis qu'elles sont petites, hein, du fait qu'il y a la guérison, etc., et que peut-être elles pourraient, puisqu'elles sont fils d'eux ou filles d'eux, etc. Donc elles sont aussi amenées à prendre conscience de ça de cette manière. Et puis après, qu'on reçoive ça en tant que don, ou qu'on ait écouté l'émission de Laurent Fenn sur Ici et Maintenant, et qu'on se dise, tiens, là, il y a peut-être quelque chose que je vais pouvoir aller découvrir, et puis qu'on se révèle guérisseur lors d'un stage, ou quel que soit le chemin, voilà, je crois qu'on... Voilà, tout est bien, c'est...
On est tous guérisseurs, ok, et il n'y a pas d'âge spécifique à laquelle ça commence ou ça se termine. Chacun, on a une conscience d'un corps physique et on peut à n'importe quel moment donc utiliser ces outils. Ok, il y a des stages qui sont aussi qui ont enseigné aux enfants et les enfants, bon, ils ont une facilité de travailler avec leur imagination, ok, et donc ils rêvent de voir l'autre personne guérie. Et c'est magnifique ce qu'ils font. Okay, Martin, il a un fils qui a 9 ans et bon, il donne des guérisons surprenantes. Okay, parce que c'est naturel chez les enfants. Un adulte, c'est structuré dans son mental déjà. Et c'est ça aussi qui fait pour chacun de nous comme être de capacité infinie, chacun on est capable de rêver. Mais la différence dans la manifestation physique, ça dépend de ce que la personne rêve. Et il y a des personnes qui sont limitées dans leurs rêves. Okay. Et ça veut dire que si on est chacun des êtres de capacité infinie, toute pensée qui nous limite, eh bien, elle est invalide par nature. Okay. Ça veut dire que beaucoup de gens disent « je ne peux pas faire ça » ou « je ne peux pas voir clair » ou « je ne peux pas marcher ». Ça veut dire que la personne, chaque fois qu'elle dit « je ne peux pas », elle renforce l'idée que c'est impossible à faire. Et pourtant, par exemple, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, j'ai marché sur le feu, sur les charbons ardents. Et j'avais déjà lu ça, et j'avais pensé il y a seulement des personnes spécifiques qui peuvent faire ça. Okay. Et un jour, j'ai eu l'occasion de participer à un séminaire de marche sur le feu, et bon, j'ai marché plusieurs fois sur le feu, et je ne me suis pas brûlé les pieds. Et donc, ça veut dire que si d'autres personnes l'avaient fait en moi, si moi j'étais capable de le faire, mais tout le monde est capable de le faire, à partir du moment où on sait comment le faire. C'est pour ça que par exemple, une des phrases de Martin Brofman, c'est « il n'y a pas de choses que vous ne puissiez faire, seulement des choses que vous n'avez pas encore apprises à faire ». À partir du moment où on connaît la technique, eh bien, on peut tout faire. Alors, certaines personnes peuvent dire « oui, mais tu ne peux pas voler dans les airs ». Mais pourtant, il y a des yogis qui font ça tous les jours, qui font de la lévitation. Okay, et ça existe. Et par exemple, aussi, il y a une croyance dans la réalité physique, si on regarde dans le soleil, on devient aveugle. Pourtant, il y a des yogis qui font ça tous les jours, qui regardent dans le soleil et c'est de l'énergie et ils voient parfaitement clair. J'ai fait aussi cette expérience. Martin Brofman aussi a fait la sienne en regardant dans le soleil. Et c'est intéressant, c'est que quand tu regardes, quand tu lis La République de Platon, l'histoire de la caverne, okay, où il y a ces prisonniers qui sont enchaînés et qui regardent le mur devant eux, où il y a des ombres qui sont projetées, il y a un feu d'allumé derrière et il y a des personnages qui passent portant des trucs en carton, des figurines, des plantes, etc., qui sont projetés comme des ombres sur le mur. Et ils pensent tous que ces prisonniers, que c'est ça la réalité. Et puis il y a un prisonnier au bout de la chaîne qui se détache et qui regarde autour de lui, il voit d'abord rien parce que ses yeux étaient habitués à l'obscurité, puis ensuite il distingue le feu et l'entrée de la caverne. Et il monte vers l'entrée de la caverne et là il voit rien du tout et ses yeux s'habituent petit à petit et là il voit le soleil, le ciel bleu, les plantes, etc. Et il dit mais c'est ça la réalité, en fait ce qu'on voyait en bas c'était même pas l'apparence d'une réalité. Et il est tellement content qu'il veut redescendre et le dire à ses petits copains et donc il dit mais c'est pas ça la réalité, en fait ce que vous voyez c'est même pas donc l'ombre d'une réalité, l'apparence, en fait la réalité c'est ça, le soleil. Et bon, ces autres compères prisonniers pourraient même aller jusque le tuer, ok. Et bon, l'histoire continue, mais il y a une chose intéressante, c'est que Platon dit à un moment donné, il a regardé directement dans le soleil, ok. Et donc cette expérience, il y a aussi des sites internet qui parlent par rapport à ça, de regarder directement le soleil, les yeux ouverts, ok, parce que il y a aussi par rapport à la méthode Bates, où on parle de prendre des bains de soleil au niveau des yeux avec les paupières fermées. Mais là, c'est de regarder directement le soleil. Et l'important, c'est de regarder quelle pensée on met quand on fait une expérience. Si on se dit « je ne vais pas y arriver », à partir de là, il y aura une manifestation qui ne correspondra pas à ça. Mais si on renforce l'image et l'idée que tout est possible, à ce moment-là, il y a cette manifestation. Et il y a des êtres humains tous les jours qui montrent que des choses qu'on pensait impossibles, on est capable de les faire.
Oui, notamment de ne pas avoir de bras ni de jambes, mais de traverser la Manche.
Exactement. Ouais. Ouais. Super.
Ouais. Et moi, je me rappelle quand j'étais quand j'ai fait mon service militaire, j'étais dans les commandos. Ok, et je me suis retrouvé comme radio faisant du Morse dans une compagnie de commando. Et on s'est retrouvé à un moment devant un mur quand on faisait l'entraînement pour grimper là. Et j'avais une peur immense. Et donc j'ai refusé. D'abord, et là, le gradé a dit, mes camarades, vous le ligotez, vous le suspendez à un arbre, jusque temps qu'ils disent oui. Et je suis resté une heure comme ça, et au bout d'une heure, j'ai dit oui, et je l'ai fait. Alors, et bon, j'étais super content de moi après, mais c'était quelque chose que je ne pensais jamais faire, je pensais mourir de peur. Okay. Donc, on est capable d'aller au-delà de nos limites perçues, okay. Et c'est ce qui se montre sur la planète à chaque instant, quoi.
L'occasion de faire la deuxième page promotionnelle. Philippe Antel et Bénédicte Odéou pour nous parler de la Fondation Brofman. Pour en savoir plus, un site internet, un numéro de téléphone, un email, ainsi qu'un événement ou deux à vous annoncer. Le site internet, bien entendu, www.healer.ch. Healer, c'est en anglais, ce qui veut dire guérisseur. H-E-A-L-E-R, healer.ch. Le numéro de téléphone que voici, le 01 47 70 66 87. Je répète, 01 47 70 66 87. Et l'email de Bénédicte, benergie@hotmail.com, benergie, B-E-N-E-R-J, pardon, G-I-E, @hotmail.com. À Paris, une conférence, la thématique « Le corps reflète la conscience ». Cette conférence aura lieu le vendredi 15 octobre à 20h. Pour avoir les compléments d'information de l'endroit exact où cette conférence aura lieu, ne pas hésiter à contacter Bénédicte pour ce faire dans les jours qui viennent. Elle aura la réponse de l'endroit où a lieu la conférence. Un stage qui est organisé, un stage à la méthode corps miroir, qui a lieu dans 3 semaines, le week-end du 16 et 17 octobre, avec Philippe comme animateur pour ce stage. Je pense donc avoir donné tous les éléments qui vous permettraient d'en savoir plus, donc n'hésitez pas à contacter Bénédicte pour cela. Je vais ouvrir le standard, parce que j'imagine que les auditeurs ont certainement beaucoup de questions à vous poser. 08 92 23 95 20. Philippe et Bénédicte répondent à vos questions ici maintenant en direct. 08 92 23 95 20. Alors, puisque j'en ai une, la question qui se pose peut-être régulièrement, c'est dire « Ah, si j'étais riche !» En dehors d'avoir la santé, bien entendu. Alors, puisque nous sommes créateurs de notre vie, voire co-créateurs, on peut se dire que déjà s'entourer de personnes qui seraient susceptibles de penser qu'on puisse devenir riche ou célèbre, je ne sais pas, par exemple, ou peut-être de gagner au loto. Alors, Philippe.
Mais, quand on a un rêve, quand on a un but, déjà, il faut qu'on ait vraiment envie d'aller là. Okay. Donc, c'est important qu'il y ait une émotion qui soit reliée avec le but. Oui, j'ai vraiment envie de faire ça et de tout faire pour réussir. Et, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fonctionne donc en parlant de la conscience avec les 7 niveaux de conscience et les 7 chakras. Et en termes de l'abondance, okay, mais l'abondance, c'est pas seulement l'abondance financière, okay, c'est aussi l'abondance dans tous les niveaux de notre vie. Le chakra de la gorge, okay, qui est situé à la base de la gorge, correspond donc à l'expression, à travers la communication, aussi l'expression de l'être intérieur, et c'est, on peut définir ça comme une énergie yin, où on suit un flux de moindre résistance, c'est-à-dire on a l'idée d'un but, d'un désir dans notre esprit, et en suivant notre intuition moment par moment, on arrive sans effort de notre part à la manifestation de notre but. C'est différent de l'énergie qui est reliée au chakra du plexus solaire, qui est plus une énergie yang, où là, je dois travailler pour gagner de l'argent, pour acheter quelque chose. Si je ne fais pas, je ne reçois pas. Okay, et ça, c'est le niveau qui est défini comme normal par la société. Pour fonctionner donc au niveau du chakra de la gorge, c'est important d'avoir déjà, on va dire, ses besoins basiques de satisfaits, okay, d'avoir assez d'argent pour payer son loyer, sa nourriture, etc. Sinon, on va avoir du mal à croire qu'on peut tout avoir sans rien faire. Okay, c'est pas l'idée qui est donnée dans la société. Et j'ai une histoire comme ça dans mon expérience où j'ai donné souvent des séminaires au Brésil et quand je prenais l'avion, c'était toujours en classe économique, et tu sais comment on est serré en classe économique, donc avec mes grandes jambes, j'en avais assez, et j'avais envie de voyager donc en business. Mais bon, le business, c'est cher. Ok, mais donc ça, c'est déjà partir dans des considérations qui ne fonctionnent pas. Et j'ai décidé seulement de fixer le but. Le but, c'est de voyager en business, et de voir comment ça allait m'arriver. Donc, j'ai acheté un billet en économie, je suis à l'aéroport, on m'a donné ma carte d'embarquement en économie, et je dis ok, je suis curieux de voir comment ça va se mettre en place. Et quand je suis arrivé à l'embarquement, elle m'a pris mon ticket, elle a été voir l'ordinateur, elle m'a dit voilà, vous êtes surclassé en business. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais c'est ça, c'est pas important. Les moyens pour arriver au but ne sont pas importants, c'est le résultat qui est important. Et donc si on est capable de le faire une fois, on est capable de répéter cette expérience très souvent. Donc c'est de voir comment chacun peut faire ça. Et
mais désolé, hein, le téléphone faisait que... on va accueillir tout de suite notre première auditrice, pardon, Danielle, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tous les deux.
Bonsoir, bonsoir Danielle.
Voilà, alors je voudrais savoir si cette méthode de guérison peut s'appliquer aux animaux, et si oui, comment et...
C'est la même chose, c'est un concept, ok, et un concept on peut le projeter sur quoi que ce soit, donc sur des animaux, quels qu'ils soient, ou sur une maison, ou une pièce, un endroit où on ne se sent pas bien, et on peut imaginer donc les chakras d'un animal de la même manière, ou les chakras d'une maison, ou simplement remplir l'animal de lumière blanche, ou la maison de lumière blanche, et... un animal a une conscience et s'il a un symptôme, ça veut dire qu'il a des tensions dans sa conscience par rapport à ce qui se passe dans son environnement immédiat.
Oui. Voilà. Mais par rapport à un humain, on établit une relation avec l'humain. Alors l'animal, là, Quel genre de relation est-ce qu'on établit dans ce cas-là avec lui? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est...
Avec un animal ou un bébé, c'est plus clair encore qu'avec un adulte. Parce qu'un adulte va dire, oui, j'ai envie d'être guéri, mais à l'intérieur, il va y avoir une résistance. Tandis que si, par exemple, on envoie de l'énergie avec un animal, bon, on se connecte avec lui, on va dire, d'esprit à esprit, on peut ressentir si l'animal est ouvert pour ça. Et si on envoie de l'énergie et que l'animal n'a pas envie, il va s'en aller tout de suite, ou il va le manifester. Et là, on ne va pas non plus forcer la chose, c'est d'accepter que c'est comme ça, et de pas faire la guérison, parce que l'animal ne l'accepte pas. Et avec un bébé, c'est la même chose. Si on envoie de l'énergie à un bébé qui n'a pas envie, il va le manifester tout de suite en pleurant, en s'agitant, etc. Et donc là, il faut arrêter. Donc ne pas imposer la guérison.
Et c'est aussi rapide qu'avec un humain, si ça doit avoir lieu?
Oh, ça peut être aussi rapide ou plus rapide. Il n'y a pas de laps de temps de manifestation. D'accord. Ça dépend de la sensibilité de la personne ou de l'animal.
Okay. D'accord. Bon, voilà. Je vous remercie beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir, Daniel. 08 92 23 95 20, nous accueillons Frédéric. Bonsoir, Frédéric.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, je voulais d'abord dire qu'en gros, j'étais d'accord avec vous. Quand on veut, on peut. J'ai déjà remarqué quelque chose. Mais vous parlez de création, de rêve, d'imagination, de maladie et de guérison, de nouvelles réalités au-delà du physique et du mental. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de la schizophrénie.
La schizophrénie, c'est aussi donc une des tensions dans la conscience de la personne. Quand il y a un symptôme qui se manifeste, on regarde ce qui s'est passé juste avant dans l'expérience d'une personne. C'est quelque chose avec lequel la personne ne se sentait pas bien. Okay. Bon, on n'est pas obligé de connaître la cause pour guérir les effets, mais ça peut déjà donner une indication. Okay. À chaque fois qu'il y a un symptôme qui se manifeste, donc on regarde ce qui s'est passé juste avant dans la vie de la personne, quelque chose avec lequel elle ne se sentait pas bien. Et donc on peut regarder quel est l'effet du symptôme. Okay. Et ça va montrer, pendant la guérison, on va voir aussi les aspects de conscience où il y a des tensions. Et il y a des différentes sortes de schizophrénie. Hein, par exemple, des schizophrénies qui sont décrites dans une certaine réalité, dans la réalité spirituelle, on va voir ça totalement différemment. Par exemple, si une personne va voir un psychiatre et dit « je vois plein de couleurs autour des gens », le psychiatre va décrire ça comme schizophrène. Ici, on va dire « la personne elle est clairvoyante, elle voit les auras ». Donc ça, c'est déjà une chose totalement différente. Okay, où on ne voit pas la personne comme ayant un symptôme, mais en fait ayant un don.
Ouais. Okay, voilà. Donc pour vous, la schizophrénie, ça ne serait pas une maladie, quoi?
Ça peut être, si la personne ne se sent pas bien avec son expérience, ça dépend quelle sorte de schizophrénie. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs sortes. Donc, il faut voir déjà si la personne ne se sent pas bien avec l'expérience qu'elle est en train de vivre. Peut-être qu'en rencontrant un guérisseur et en ayant déjà une discussion avec lui, peut-être il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas un symptôme, mais c'est un don. Et ensuite, si il y a une forme de schizophrénie qui est mal vécue à ce moment-là, donc on peut faire une guérison et la personne va voir un changement. Ok.
Ok.
Voilà.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Au revoir, Frédéric.
Au revoir.
08 92 23 95 20. N'hésitez pas, profitez-en parce que vous avez tendance à appeler au dernier moment. Donc là, il y a de la place, alors profitez. 08 92 23 95 20. Nous accueillons Christine. Bonsoir, Christine.
Bonsoir. Je suis contente que Daniel, juste avant, ait abordé la schizophrénie. La semaine dernière, c'était la journée nationale d'Alzheimer. Laurent, à une de vos émissions, vous aviez aussi... je viens de prendre votre émission en cours, hein. Je viens juste d'écouter, et vous aviez parlé de la puissance, vous aviez fait allusion aux personnes qui, par le pouvoir de la pensée, des guérisseurs qui pouvaient guérir des brûlés, des grands brûlés, mm-hmm. Je me souviens. Et là, vous en Philippe, vous, votre invité aujourd'hui parle de cette guérison, de ces pensées. Je voulais juste par rapport aux pensées qu'on peut envoyer dans cet ordre d'idées, je voulais juste parler de mon cas, par exemple. J'ai une mère qui va avoir 70 ans. Et par exemple, depuis un an, j'essaye de lui envoyer des bonnes pensées. Et je suis à la base optimiste, hein, et je ne comprends pas pourquoi toujours il y a toujours cette agressivité de ces personnes. Même avec le pouvoir de la pensée, alors parfois on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais, par rapport à la maladie d'Alzheimer, elle est reliée à des tensions dans les aspects de conscience. Et bon, si on regarde la manifestation, le résultat d'une maladie d'Alzheimer, c'est la personne, elle est isolée dans son monde. Okay. Et donc, il y a des tensions dans le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est l'aspect le plus profond de notre conscience. Et un des aspects, c'est l'unité ou la séparation. Et donc, la personne s'isole du monde extérieur. Et également, dans la maladie d'Alzheimer, la personne n'a plus de mémoire. Et la mémoire, c'est des tensions dans le chakra racine. La mémoire, c'est le fait d'être présent. Et le chakra racine, c'est la confiance, la sécurité par rapport au foyer, au travail, à l'argent, aussi la perception du monde physique. Ça veut dire que quand la personne, le symptôme a été découvert ou s'est déclaré, la personne donc avait à nouveau quelque chose qui marchait pas dans sa vie, avec laquelle elle se sentait pas bien, elle se met en retrait du monde extérieur parce qu'elle ne voit pas une manière de régler non plus la situation. Donc on travaille avec l'idée que tout peut être guéri. Et si une personne qui a la maladie d'Alzheimer souhaite être guérie, à partir de là, donc ça va se manifester. Maintenant, on peut regarder on est chacun une conscience individuelle, et donc la somme des consciences individuelles forme la conscience de groupe. Et donc on peut dire que il y a la conscience de groupe d'une ville, d'un pays, d'une région, et il y a aussi la conscience de groupe de toutes les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire qu'elles ont toutes une manière d'être qui marche pas pour elles. Okay. Ça, c'est possible de le changer.
Ce que j'entendais également dans votre intervention et dans votre question, c'était en rapport effectivement à cette maladie. Est-ce que lui, c'est votre maman, c'est ça?
Oui.
Oui, oui. Hein, est-ce que vit votre maman? Donc là, vous avez eu effectivement un point de vue super intéressant de la part de Philippe. Après, moi, ce que j'entendais, c'était vous, ce que vous vivez, en exprimant que vous aviez beau maintenir la perception que elle allait aller mieux. En fait, ça n'arrivait pas, ce résultat n'arrivait pas, et que vous étiez en fait très affecté par cette relation. C'est ça que j'entendais aussi dans votre...
Oui. Oui, fait, là, je dis Alzheimer, en fait, elle n'a pas été même pas détectée. J'essaye de trouver, de voir quel était son problème,
donc,
peut-être.
Pour
je sais
vous,
pas.
Voilà, ça, c'est donc pour elle, et après, pour vous. Pour moi, j'avais juste envie de vous exprimer ça, c'est de voir aussi qu'il y a cet intérêt à rester centré et à accepter, à grimper dans son cœur et accepter autant que possible ce que vit notre entourage. C'est-à-dire, pour vous, ce sera quand même certainement moins dur et moins dans les émotions, et de voir que si elle décide de ne pas guérir, c'est aussi son choix, et que là, vous pouvez pas rentrer, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais c'est pas une bonne idée de vouloir contrôler ça. Vouloir aider, proposer ses services et vouloir faire quelque chose, c'est vrai que c'est superbe. Et puis après, c'est de vous, de votre point de vue, d'accepter aussi que l'autre a son propre pouvoir et ses propres décisions.
Oui, je comprends tout à fait. Je vous remercie. Oui, je vous remercie beaucoup.
Avec plaisir.
Je vous en prie.
Voilà, je vous remercie beaucoup.
Au revoir, Christine. Merci à vous.
Au revoir.
08 92 23 95 20, nous accueillons Lucienne. Lucienne, bonsoir.
Oui, merci.
On vous écoute, Lucienne.
Je voudrais... Là, je viens d'entendre une femme qui répond... j'aimerais que ce soit Philippe qui me réponde.
Je suis là.
Me tais.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai entendu qu'il suffit de vouloir pour réussir. Alors, je vous assure que je viens vous exposer mon problème, mais je ne peux pas me déplacer. Je suis sur déambulateur depuis janvier 2009, et si je glisse, ce qui m'est arrivé, je me suis tapé le derrière par terre, je suis restée 14 heures à me traîner pour essayer de me relever, et quand évidemment j'ai pas réussi, j'ai prévenu quelqu'un dans mon escalier. Et là, les pompiers sont arrivés, ils m'ont passé par la fenêtre pour me conduire à l'hôpital d'Argenteuil. Je suis allée en urgence dans un service... où je suis restée qu'une dizaine de jours, et évidemment je suis revenue chez moi. Je suis tombée une autre fois, mais là les pompiers sont bien venus, ils m'ont quand même pas passé par la fenêtre ni par l'escalier. Je demeure au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur. J'ai eu déjà trois opérations de la hanche droite.
Ok, bon, je peux donner ma perception par rapport à ce qui se passe pour vous. Bon, si on est chacun des créateurs et qu'on décrit le symptôme de la manière que la personne l'a créé, je dirais que il faut dire je m'immobilise moi-même. Hein,
Ah oui, bah, croyez-moi que c'est pas le cas,
oui,
hein.
et c'est la manière dont je vois les choses. Et on travaille avec cette idée que tout commence dans notre conscience. Et donc, si on a des tensions dans notre conscience, il y a trois communications entre l'être à l'intérieur et trois moyens de communication entre l'être intérieur et le corps physique. Le premier moyen de communication, c'est l'intuition. Et on nous enseigne que quand on suit son intuition, on est au bon endroit et que les bonnes personnes en train de faire les choses qui marchent pour nous. Si on ne suit pas son intuition, le deuxième moyen de communication, c'est le niveau émotionnel. Et ça, c'est comme un signal d'alarme où nos émotions nous disent, voilà, tu es en train de faire quelque chose qui ne marche pas pour toi. Si on n'écoute pas, et on a le libre arbitre d'écouter ou pas écouter les émotions, le moyen de communication va être plus extérieur, ça va être le niveau du corps physique, où le message doit arriver d'une manière plus forte. Et la personne va créer un symptôme ou va être attirée dans une expérience qui crée le symptôme. Donc, par exemple, on va tomber et on se fait mal quelque part, ou
Ah
on
non,
se
non,
cale
non, non,
casse quelque
attendez,
chose.
c'est que la douleur existe bien avant que je tombe. Quand je tombe, je ne me fais pas mal, j'ai pas plus mal qu'avant. Je me casse rien du tout. Simplement, je ne peux pas me relever.
Oui, je
Et
comprends
là, c'est
bien.
pas une vie de l'esprit,
Non,
croyez-moi.
mais si vous aviez des douleurs dans les jambes avant, les jambes sont reliées au chakra racine. Ok, le chakra racine, c'est la confiance, la sécurité par rapport au foyer, au travail, à l'argent et aussi la perception du monde physique. Et donc, ça veut dire que dans votre conscience, il y avait des tensions à ce niveau-là et que elles sont devenues tellement fortes qu'elles se sont manifestées physiquement.
Non, je crois que je me suis mal expliquée. À la suite d'une chute, par exemple, bon, là, j'ai un médecin traitant qui trouve qu'à partir de 70 ans, toutes les femmes ont de l'arthrose ou des choses comme cela. Et j'ai traîné, je ne sais pas combien de temps. J'ai réussi quand même à aller au centre de rééducation de Saint-Jean-de-Mont où je suis restée, je ne sais pas
Oui,
combien de
ça
temps.
je comprends bien, mais
Non, mais attendez,
c'est la même
attendez,
chose.
excusez-moi,
Ouais.
excusez-moi.
Alors,
Le
Lucien.
11e médecin, écoutez-moi s'il vous plaît, le 11e médecin a découvert à la radio que j'ai eu une double fracture au bassin avec un cale vicieux parce que c'est le 11e médecin qui s'en est aperçu. Alors là, je crois pas que j'ai eu une.
Alors, Lucienne, excusez-moi, qu'on soit bien d'accord. Philippe, il n'est pas médecin, d'accord? Là, ce dont on a parlé, je ne sais pas à quelle heure vous avez commencé à écouter l'émission, puisqu'elle a commencé à 17h30,
J'ai écouté.
hein, d'accord? Philippe et Bénédicte sont des guérisseurs. Alors, ils vous ont expliqué, en tout cas, ils ont tenté de le faire, comment ils perçoivent l'interrelation qu'il y a entre le corps et l'esprit.
Ah
Et
oui, mais je comprends
comment
rien.
on peut, entre guillemets, s'auto-guérir? Donc, là, Philippe, il n'essaye pas de vous convaincre. Il
Non,
explique
mais s'il
juste.
a une méthode.
Ben, il a une méthode. Donc, il a essayé, je dis bien essayé, de vous répondre, parce que vous avez posé une question. Alors, après, vous restez avec cette idée de la vision médicale, du mal physique,
Non,
qu'on
de
peut
la. Oui, mais.
détecter. J'entends bien. Et elle
La
est.
douleur, c'est une douleur qui est permanente.
Oui,
J'entends
mais la
bien.
douleur, elle
J'ai
commence
pas
à un certain
l'habitude de.
moment. La douleur physique, elle arrive après qu'on ait pu écouter ses émotions. Et donc, le corps, il parle un langage très simple. Il vous dit, regarde ce que tu te fais à toi-même avec la manière d'être que tu as développée. Et donc, on regarde au moment où les douleurs physiques dans vos jambes ou dans vos hanches ont commencé.
Dans les
Là,
hanches, ça c'est
il
fort.
s'est, oui, là, il
Et
s'est
le
passé
cou.
quelque chose dans votre vie avec lequel vous ne vous êtes pas senti bien. Et les hanches, les jambes, etc., sont reliées à ce qu'on appelle le chakra racine. Et les aspects de conscience de ce chakra, c'est la confiance, la sécurité par rapport au foyer, donc la maison, le travail, l'argent, la relation avec le monde physique ou la relation avec sa mère biologique. Donc, ça veut dire que dans un ou plusieurs de ces aspects, vous n'étiez pas donc tranquille dans votre conscience, vous aviez des tensions et elles
Cumulé.
se sont intensifiées, se sont manifestées physiquement. Peu importe le moyen comment ça arrive physiquement, qu'on se casse la jambe, que ce soit une arthrose ou que ce soit un accident quel qu'il soit, ça reflète seulement des tensions dans votre conscience. Et si vous libérez les tensions dans votre conscience, à partir de là, le symptôme n'a plus de raison d'exister. Le symptôme, il est simplement là pour vous montrer que quelque chose ne marche pas dans votre manière d'être à ce niveau-là.
Ah,
Voilà.
quelque chose ne marche pas, je sais. Mais alors, avez-vous le moyen de me donner. Je ne peux pas me déplacer.
Oui, je comprends bien. Dans ce cas-là, il faudra contacter Bénédicte après l'émission et voir comment on peut trouver une solution si vous avez envie d'une guérison.
Ah ben, je pense bien.
Voilà.
Voilà, Lucienne.
Surtout envie de ne plus souffrir. Bon, eh bien, je vous remercie.
Avec au revoir, plaisir. Lucienne.
Au revoir.
Alors oui, hein. Alors, c'est là où on voit, hein, Philippe, Bénédicte, qu'une émission d'une heure et demie pour expliquer comment... En tout cas, je partage votre vision dans une certaine mesure, entre la partager, la concevoir, dire bah oui, c'est ça, ça me parle, effectivement, et l'appliquer dans sa vie au quotidien, c'est encore autre chose.
Mais c'est plus facile, en fait, de trouver une solution extérieure. Souvent, par exemple, si je prends l'exemple de la vue, ok, c'est très facile d'aller chez l'opticien, on met des lunettes ou des lentilles de contact, et on voit clair, en général. Ok, mais la cause intérieure est toujours là. Et quand on retire les lunettes, une fois qu'on les a portées pendant un certain temps, eh bien, on voit encore moins bien qu'avant. Parce qu'en fait, les six muscles qu'on a autour des yeux ne travaillent plus. Et donc, les lunettes, c'est comme des béquilles qui règlent, on va dire, l'effet extérieur où on voit plus clair, mais la cause intérieure est toujours dans la
conscience. Tu as compris toi personnellement pourquoi est-ce que tu avais été devenu astigmate ou tu avais eu des lunettes?
J'étais myope et astigmate, on a découvert ça à l'âge de 6 ans à l'école quand j'ai passé un examen médical et en bouchant les yeux, et donc ils m'ont dit j'étais myope de l'œil gauche et astigmate de l'œil droit, donc j'ai eu des lunettes comme tout le monde jusqu'à l'âge de 35 ans et à 35 ans donc quand j'ai rencontré Martin et il m'a dit qu'au lieu de dire bah, je peux pas voir clair parce que je suis né comme ça ou c'est venu à certains âges, etc. C'est je m'empêche moi-même de voir clair. Et donc la myopie est reliée avec des tensions. La vue, c'est le chakra du plexus solaire. Donc la personne se sent pas libre d'être elle-même. Elle contrôle ou elle donne son pouvoir, liberté aux autres de décider pour elle qu'est-ce qui est bien. Et les myopes, ils regardent le monde à travers un filtre perceptuel, émotionnel, d'insécurité ou de peur. Donc il y a aussi des tensions dans le chakra racine. Et donc l'astigmatisme, ça correspond à une distorsion au niveau de la vision. La personne ne voit pas une ligne droite, mais un peu ondulée comme ça. Et donc il y a une polarité dans le corps. L'œil droit, pour les droitiers de naissance, c'est voir clairement ce qu'on veut ou voir clairement l'homme. Et l'œil gauche, voir clairement ses émotions et ou voir clairement la femme. Et donc l'astigmate n'a pas confiance dans ses propres valeurs. Il a une distorsion par rapport à ce qu'il veut ou ce qu'il ressent, dépendant de l'œil où il y a l'astigmatisme. Et quand j'ai regardé ça dans ma vie de tous les jours, et quand ça a commencé, j'ai compris pourquoi ça avait commencé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire de connaître la cause pour guérir les effets, mais ça peut donner une bonne indication. Sinon, on se dit, si je connais pas la cause, je peux pas guérir. Et ça on crée une résistance vis-à-vis de la guérison en elle-même.
Si c'est un problème de conscience et qu'on connaît pas la cause, comment savoir qu'il faut modifier ma conscience à tel moment ou au tel endroit?
Juste, ouais, le point de vue avec ça, c'est aussi juste simplement de voir ton corps, le corps physique, comme le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur et comme le dernier niveau de communication, le plus fort, le plus intense. Avant ça, il y a un monde émotionnel qu'on peut écouter, on peut y répondre de manière harmonieuse ou non. Avant ça, il y a des pensées, alors qu'ils vont être agréables ou désagréables. Avant ça, il y a encore un ressenti et puis une intuition. Donc, soit on reste sur ce chemin dont tu parlais aussi tout à l'heure de moindre résistance, là où c'est fluide, là où c'est facile, soit on en sort. Et puis bah, là, c'est juste de sentir ça, de passer aussi par cette écoute-là et de pouvoir transformer le plus rapidement possible quelque chose, ce qui ne va pas en tout cas, avant d'arriver sur le plan physique, avant que le message arrive jusqu'à ce niveau-là. Par exemple, pour le petit rhume, tu as dû avoir des petites tensions, peut-être dans ton travail ou peut-être à la maison, etc. Parce que le nez et tout ça, c'est associé à ton chakra racine et à ce qui, voilà, à ces domaines-là. Donc, c'est juste de regarder ça. Et quand tu sens ces tensions qui arrivent, qui sont légères, c'est rien du tout. Et puis, un petit rhume à l'arrivée, c'est pas grand-chose non plus. Mais cela dit, c'est d'y répondre très vite et de te retrouver dans une manière d'être qui est, voilà, c'est plus relax. Et comme ça, le stress monte pas plus et t'as pas besoin d'attendre que ça te montre le message jusque sur le plan physique.
Pour résumer ce que vient de dire Béné, c'est d'être capable de réagir avant que les leçons de la vie nous arrivent au niveau physique et même au niveau émotionnel. On est capable d'être heureux tout le temps. Si quelqu'un dit oh non, on peut pas être heureux 24 heures sur 24, je dis si. Ok, mais pour ça, ça nécessite de marcher consciemment dans sa vie et de réagir dès qu'il y a une émotion désagréable qui se montre, et là de dire ah ça c'est en train de me montrer que je fais quelque chose qui marche pas pour moi et de corriger le chemin et de repartir sur ce chemin de moindre résistance. Et ça, pour arriver là, ça nécessite d'aller au-delà du mental, ok, de passer dans les aspects plus élevés au niveau de la conscience.
Et c'est la fin de cette émission avec la dernière page promotionnelle.
C'est trop court. J'ai pas pu me parler et tout. Oh, c'est terrible. C'était super long. Merci encore.
Yeah. Alors, attends, mais qu'est-ce qu'il est rapide, aussi oui, rapide hein, à parler qu'il le courant d'air, je vais l'appeler. Alors, Philippe et Bénédicte pour nous parler de la méthode Brofman, la fondation Brofman. Pour en savoir méthode plus, www.healer.ch, healer qui veut dire guérisseur en anglais, healer.ch. Pour contacter Bénédicte, pour avoir des compléments d'information, voici le numéro, le 01 47 70 66 87. 01 47 70 66 87. L'email de Bénédicte, benergie@hotmail.com, benergie, benergie@hotmail.com. Une conférence qui aura lieu le vendredi 15 octobre à 20h à Paris. La thématique, le corps reflète la conscience. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Bénédicte. Et enfin, un stage méthode corps miroir qui sera dans 3 semaines exactement, le temps d'un week-end, le 16 et le 17 octobre, avec Philippe comme animateur. Voilà, fin de cette dernière page promotionnelle et fin de cette émission. Philippe, Bénédicte, un grand merci.
Merci à toi, Laurent.
En fait, ce que je vais faire la prochaine fois que tu vas venir, Philippe, c'est voilà, je vais te poser. Je sais pas ce que je vais mettre, de l'encens, quelque chose, un peu de méditation, de respiration à côté.
Ah, c'est vrai qu'une heure et demie c'est court et qu'il y a tellement de choses à partager.
C'est vrai, c'est vrai.
Et on a envie de communiquer tellement à ce sujet-là et à ce propos-là.
C'est parce que tu dois faire une émission qui dure 3 heures ou 4 heures au lieu d'une émission d'une heure et demie, comme ça. Ah
oui, 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 oui. Mais alors là, pour le coup, il y aura beaucoup, j'imagine, de questions de la part des auditeurs, parce que
c'est comme ça. Super.
Bon, on aura l'occasion de refaire ça alors. Ok. Au revoir, bonne soirée.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
La suite de nos programmes sur Ici Maintenant pour Info, l'occasion pour vous d'écouter ou réécouter l'émission qui a eu lieu hier soir, où nous avons parlé des chemtrails. En tout cas, on a essayé de décortiquer à savoir ce que ça pouvait être que ces fameux chemtrails. Et retour sur la bande FM à partir de ce soir de 23h avec l'émission La Libre Antenne, plus exactement de Lisandre, puisque Clara n'est pas là cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute et à 23h. Au revoir. Magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, icimaintenant.info aussi pour nous écouter via internet. Santé Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet.